Katel Müller, José-Louis Boquet, bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie chez Casterman de votre nouvelle bande dessinée qui concerne de nouveau une femme d'exception, Anita Conti. Anita Conti qui était la première femme océanographe. Je me demandais quand vous entamiez comme ça des recherches, vos enquêtes, est-ce que vous vous rendez compte dès le départ de la richesse du parcours de vie de votre héroïne?
On la subodore.
Vous êtes surpris quand même aussi, non?
Et elle se... Non, là, on pense qu'il y a un filon. Voilà, mais c'est un peu comme Anita qui essayait de trouver dont toute la quête était de trouver une réponse aux énigmes de la mer. Que se passe-t-il sous l'eau? Bah nous, on est un peu pareil, c'est-à-dire on plonge dans un sujet et on découvre effectivement au fur et à mesure qu'il y a, heureusement d'ailleurs, qu'il y a une richesse incroyable et que tout le problème va être d'arriver à remonter tout le trésor et de pas laisser les principaux calices d'or au fond de la caverne qu'on vient de creuser ou d'explorer.
C'est
tout le problème. Hein. Pardon.
C'est la boîte de Pandore.
Ça peut être la boîte de Pandore.
On a beaucoup hésité avec l'abbé Pierre.
Non, l'échappée belle.
Donc c'est quand même, a priori, c'est toujours une bonne surprise. Alors, toute bonne surprise a son revers, évidemment. C'est-à-dire que, par exemple, sur Anita, dont on avait une connaissance avant de décider de faire Anita Conti, évidemment, on s'est un peu documenté pour savoir grosso modo quelle peut être la trajectoire. Mais quand on est vraiment sur le motif, et que là, on commence à raconter vraiment l'histoire, même si on a décidé que cette fois-ci, on se limiterait à tant de pages, et même si moi, je fais tout pour essayer d'arriver à rentrer, il y a toujours un moment où Katel me dit « Mais non, là, il faut... »
Hein? Ça doit être dur quand même de supprimer certains épisodes de vie, non?
Ben là, c'est plutôt que j'ai été obligé de rajouter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit on va faire pas plus de tant de pages, et puis si, parce que si on veut en même temps que ce soit un récit qui nous embarque dans la narration, mais qui aussi embarque le lecteur, ben on est obligé de faire des concessions sur non pas sur la suppression, mais sur l'ajout de choses qu'on aurait bien qui sont les fameuses surprises en plus qu'il faut arriver.
Le problème, c'est que le personnage nous dépasse, c'est qu'on découvre des choses tellement extraordinaires au fur et à mesure qu'on ne peut pas les taire. On est obligé d'en parler, de le montrer, et de le montrer pas en une case, mais parfois en une double planche. Et on est obligé pourtant de serrer les boulons à fond pour ne pas faire 2000 pages. Mais l'essentiel, même l'essentiel, il est compact en 300. Donc, et évidemment, le personnage, on a une idée, mais quand on fouille et on découvre de plus en plus de choses, on a envie de le raconter, c'est absolument inouï, quoi, parce que on savait qu'elle avait fait certaines choses, mais on a découvert qu'elle était pionnière beaucoup plus que ce qu'on imaginait, et qu'elle a son importance dans l'histoire à la fois de l'océanographie, mais surtout de l'écologie en général, parce que elle a été d'abord lanceuse d'alerte, mais après elle a dénoncé en fait la surpêche tout en...
On va y arriver.
Voilà, elle a, mais tout en trouvant des solutions. Tout en trouvant des solutions qui ont été des solutions pérennes. C'est ça qui nous a en fait embarqué dans « Ah oui, mais elle a une importance fondamentale dans l'histoire de l'écologie et notre vie aujourd'hui, puisqu'on arrive à nourrir, grâce à ses recherches, l'humanité.
» Alors, cette ligne du temps, elle ne doit pas être facile à reconstituer. Enfin, il y avait une superbe chronologie. Avec son
premier travail.
Son histoire, mais en même temps, la grande histoire avec un H majuscule. Vous mettez quoi, tout un mur et vous cochez des petits post-it?
Non, c'est alors grâce au traitement de texte, on n'est pas obligé de retaper 20 fois le même truc. Parce que j'ai connu quand même l'époque de la machine à écrire. Donc non, en fait, le tout premier travail, c'est ça. C'est-à-dire que quand je commence à plonger dans la documentation, au fur et à mesure de chaque lecture, quelle qu'elle soit, il y a toujours à côté la chronologie. C'est-à-dire que finalement, le premier travail qui apparaît à la fin du livre, c'est la chronologie, puisque personne ne l'a fait. Et puis nous, on raconte une histoire de manière chronologique. Si nous, on commence pas par ça, et qu'on se dit, bon, tiens, ah ouais, elle est née quand, et qu'il faut qu'on sache au moins la trajectoire complète du personnage avant de décider de ce qu'on va raconter. Parce que la chronologie est presque complémentaire de la bande dessinée elle-même, puisqu'il y a des épisodes qui ne sont pas romanesques, ou qui sont purement factuels, qui n'enclenchent pas une histoire, qui sont bien notés. Donc vous pouvez tout savoir sur Anita Conti si vous lisez tout. Pas seulement la bande dessinée.
Même les bios,
voilà.
Alors donc, première femme océanographe, mais en même temps, première écologiste, finalement, on en parlait tout à l'heure. Il faut quand même se dire qu'en 1935, elle constate déjà les prémices du réchauffement climatique. En 1938, c'est le début de la pollution des mers avec les moteurs à bateaux et les hydrocarbures. Finalement, tout ça, ça ne date pas d'hier. C'est énorme.
Ça fait presque 100 ans, en fait, qu'elle réalise ça et qu'elle commence par dire, en allant mettre la tête sous l'eau, que finalement l'océan est la poubelle de notre terre. Hein, tous nos déchets partent là-dedans. Premier constat. Et puis après, constat extrêmement important, on ne fait pas de la production de poissons, comme on le dit, mais de la destruction. Parce que jusque-là, depuis des siècles, on pêche la morue à Terre-Neuve, en partant de nos ports normands et bretons. Mais les marins sont au-dessus de la mer, et donc ne savent pas ce qui se passe en dessous. Ils raclent, et ils pêchent, et personne ne se pose la question de savoir si c'est renouvelable ou pas. Donc on a l'impression que c'est infini, la pêche miraculeuse.
C'est ça, parce que la pêche est miraculeuse ou elle ne l'est pas. Mm-hmm. À partir du moment où il y a le mot miracle, ça veut dire qu'on ne sait pas grand-chose de ce mystère, quand même.
Vous parlez de l'overfishing et donc de la surexploitation des océans. Finalement, c'est un sujet en pleine actualité. Paul Watson, on est en plein dedans. Le fait qu'on ait appris que le Japon tuait à nouveau des orcales, on est dans l'actualité, quand même, hein.
Mais complètement, et elle racontait quelque chose de très intéressant, c'est qu'à l'époque, parce qu'elle n'était pas contre la pêche, elle était contre la surpêche, elle avait bien conscience qu'il fallait nourrir les gens, mais pas de façon aveugle. Et c'est vrai que on pêchait sur une tonne de morue, on en rejetait 500 kilos de, entre guillemets, faux poissons avec des sales gueules, de requins, de dauphins, comme aujourd'hui on tue encore aveuglément dans certains endroits. Et elle disait, mais tout ça est du gâchis, un gâchis phénoménal, si déjà on pêche tout ça, il faut manger tout ça, il faut au moins le recycler.
D'où les sabres.
D'où le sabre, évidemment, qu'elle a mis en avant, qui ressemblait à un serpent, qu'on ne voulait absolument pas consommer, ce n'est pas un beau poisson. Et aujourd'hui, quand même, sur les bateaux-usines qui continuent à racler, au moins, on garde tout, on mange tout. On congèle, on transforme, même les autres poissons sont pilés pour faire pour la nourriture animale. Donc, tout est conservé. Ça, au moins, ça sera une de ces actions qui aura porté ses effets.
Mais le paradoxe, c'est que ce sont des bateaux-usines et que donc, ils pêchent 10 fois plus, ils vident 10 fois plus les océans qu'il y a 40 ans. Bon.
Elle a un petit côté, finalement, influenceuse. Allez, quand elle va changer les habitudes gastronomiques avec le sabre en question, elle est aussi précurseur de son côté.
Oui, parce que c'est aussi une communicante.
Ouais. Et elle sait très bien utiliser les médias. Quand
exactement.
Ça,
c'est d'abord une journaliste. Ensuite, quand elle est engagée par l'OSBTM, elle rêve de monter sur le premier bateau français dédié à la océanographie. Mais elle est d'abord engagée comme propagandiste. C'est-à-dire comme chargée de communication. Donc le jour où elle met, c'est-à-dire quasiment 30 ans plus tard, quand elle a un combat à mener qui est celui de la reconnaissance du sabre, elle connaît tous les mécanismes. C'est-à-dire du bateau, elle appelle quand même les journalistes pour leur dire attendez-nous sur le quai, vous allez voir quelque chose. Et là,
et on va vous les préparer.
Et elle connaît aussi le fonctionnement politique, parce que ce qui est assez balèze, c'est qu'au-delà de la communication médiatique, c'est qu'elle est ensuite soutenue quand même par les syndicats d'armateurs, etc., parce que ça intéresse tout le monde de plus rejeter le sabre et d'avoir un poisson supplémentaire. Si on en jette la moitié, si on pouvait en jeter moins et en vendre plus. Donc il y a aussi
gagnant.
C'est qu'elle est gagnant-gagnant. Et les poissonniers sont contents qu'on leur propose un nouveau poisson à vendre, etc. Et donc elle a une connaissance du système qu'elle utilise.
Il y a le journalisme, mais aussi il y a la photographe. Je la comparais, je ne sais pas, un petit peu à Ali Miller, qui est aussi une femme qui va de l'avant, qui peut-être enfonce des portes, même si c'est dans le cadre de la guerre. Aussi un portrait de femme remarquable, non ?
Bien sûr.
Alors, Oui, alors si on faisait une biographie en deux parties de Man Ray, il y aurait la première partie avec Kiki et la seconde partie avec Ellie Miller. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les deux, s'il y avait un parallèle à faire entre les deux, c'est qu'elles sont toutes les deux issues de la grande bourgeoisie, même si l'une est américaine et l'autre française, que toutes les deux se retrouvent dans une sorte d'avant-garde, Lee Miller autour des surréalistes, et puis Anita, elle, bibliophile de pointe, au motif art déco, etc., et qui toutes les deux vont préférer finalement affronter la vie dans ce qu'elle a de plus brut, pour pas dire brutal. Anita montée sur des chalutiers qui partent 5 mois se frotter aux icebergs, et Ellie Miller effectivement suivre l'armée américaine et se retrouver dans les ruines de Saint-Malo.
C'est des aventurières quand même avec leur appareil photo. Le truc c'est que Ellie Miller c'est vraiment une photographe. Anita elle est protéiforme, elle est tout. Elle est pas seulement journaliste, elle est dessinatrice, elle est photographe, elle est réalisatrice.
Et au service d'une seule obsession.
Oui.
La mère.
Et elle est aussi scientifique parce que elle est engagée aussi pour faire des études scientifiques, c'est-à-dire qu'elle trace des cartes de pêche. Elle dissèque des poissons pour comprendre la chaîne alimentaire.
Exactement.
Au microscope, elle cherche l'évolution et toute la chaîne alimentaire pour la comprendre. Elle prend des notes, elle fait des essais de laboratoire. Elle a toute cette dimension scientifique, empirique, qui s'ajoute à toutes ses qualités artistiques. Et donc tout ça fait un tout qui fait qu'elle a un vrai travail d'océanographe empirique qui va servir après aux scientifiques. Diplômés qui vont pouvoir en tirer des conséquences. Quoi.
Et alors, c'est très, très concret parce que, effectivement, la fin des années 30, elle fait des relevés, etc. Mais surtout, c'est très, très concret en 1941 quand elle débarque sur les côtes mauritaniennes et que là, qu'il faut que les Français mangent du poisson, qu'on ne sait pas quoi faire de toutes les flottes de pêche qui ne peuvent plus remonter au nord. On se dit, on va les descendre au sud et que ça, c'est quand même une mission fondamentale oubliée. Mais c'est elle qui fait les premiers relevés cartographiques des fonds des côtes mauritaniennes et sénégalaises et qui dit ça y est, j'ai fait le boulot, maintenant vous pouvez venir pêcher et je vais vous dire où il faut pêcher, etc. C'est-à-dire que là elle a une c'est de l'hyper concret. C'est-à-dire que la France va pouvoir nourrir la France malgré l'occupation grâce au travail d'Anita Conti. C'est important.
On a l'impression que chacune de ces paroles amène réflexion. Allez, j'en ai relevé quelques-unes. L'utopie, c'est simplement ce qui n'a pas été essayé. Oui. La vie n'est qu'une tuerie. On en parlait tout à l'heure. La pêche, c'est la chasse. Produire, ce n'est pas faire naître, c'est tuer. Oui. Il y a vraiment un luxe au monde, c'est l'eau. Ça doit être difficile de faire un tri dans toutes ces belles paroles, quand même, non ?
En fait, c'est plutôt des marqueurs. Et c'est des marqueurs sur la trajectoire. Et on sait qu'il faut passer. On suit finalement sa pensée et que ce sont des jalons, tout simplement.
Belle histoire d'amour aussi entre Anita et Laurent Giraud-Conti. Ils se rencontrent en 86, lui a 30 ans et 57 ans de différence. Et finalement, au lieu de l'épouser, elle va l'adopter pour justement sa situation maritale. J'ai eu l'impression, vous qui connaissez bien le sujet, j'ai pensé à Piaf et Théo Sarrapeau.
Alors, Piaf et Théo Sarrapeau, on est aussi quand même dans une histoire de sensualité qui n'est pas l'histoire entre Anita et Laurent, où on est dans un... Alors là, sans doute que le terme de platonique, c'est pas un amour physique, c'est un amour intellectuel, c'est un amour... c'est de l'amour, point, mais qui ne se concrétise pas dans un acte charnel.
Voilà. C'est ça.
Et donc, c'est aussi la beauté du moment et la beauté de cette rencontre. Ils ont besoin l'un de l'autre.
Voilà, et Laurent nous le raconte avec beaucoup d'émotion. Et ils ont 50 ans d'écart et Laurent quitte sa vie parisienne avec son succès, parce qu'il est illustrateur, un succès. Et il est fasciné par cette femme qui elle-même n'a arrive quand même à un âge assez avancé, et qui a toujours pensé aux autres mais jamais à elle-même, et donc qui n'a pas prévu de retraite, qui n'a pas d'argent, qui n'a plus rien, elle a tout claqué dans ses pêcheries.
Il va aussi s'occuper d'elle.
Finalement. Il va s'occuper d'elle, il va s'occuper de son âge, il va s'occuper de sa mémoire, il va l'accompagner jusqu'au bout, il va lui tenir la main jusqu'à la mort. Donc c'est vraiment une très belle histoire d'amour. Il ne va rien garder pour lui, il va tout céder aux archives de l'Orient. Enfin, il y a zéro intérêt à part un sentiment immense, et qui nous a confié avec beaucoup de tendresse et d'émotion, parce qu'il était presque un peu gêné de nous dire ça. Et donc, quand on a trouvé ça très beau, on lui a demandé de pouvoir le mettre dans la bande dessinée, et s'y est prêté volontiers.
Et il intervient à la fin, d'ailleurs.
Il est vraiment... Oui, exactement, il intervient avec le dessin que vous montriez. Ouais. C'est une manière aussi d'être... voilà, la dernière image, finalement, de
la vie d'Anka. On a bouclé la boucle.
Voilà, exactement. Ouais. C'est lui qui l'a fait. Ça, c'était émouvant pour nous aussi, d'ailleurs, de pouvoir l'intégrer. Et c'était pour nous indispensable, cette histoire. À partir du moment où on la connaissait, ne pas pouvoir la raconter, c'était ne pas faire le livre.
Une énigme. Levon Karakotchian, ou Léon Karakotch, ouais. Coureur de jupons, père d'Anita, et en 1920, coupure. Finalement, même Laurent ne vous explique rien. Est-ce que vous qui avez quand même creusé un petit peu, vous avez quelques bribes de ce livre, parce que je trouve quand même que c'est grâce à lui qu'elle est tombée amoureuse de la mer, quand même.
Oui, c'est toute sa culture, tout son « on ne se plaint pas » qui lui permet de monter à bord, etc. Ça lui vient effectivement de son père.
Mais il y a une réelle violence qui s'est passée, on ne sait pas laquelle, mais on sait qu'elle a déchiré une photo, qu'elle n'a pas invité son père à son mariage, qu'elle ne l'a jamais revu alors qu'il a vécu tard, et que quand Laurent lui a posé des questions, elle a décidé de ne pas en parler.
Ce qu'on raconte d'ailleurs, donc c'est assez étrange, mais on ne peut pas inventer. Il n'est pas question d'inventer. Si les choses, autant la relation avec Pâquerette semble, elle est, qui est évoquée, pas forcément aussi, et d'une certaine manière montrée, mais
il y a
du courrier qui permet de comprendre leur relation, qui était très profonde. On ne sait pas sur le père, et en même temps, on peut pas ne pas. Voilà, on le dit, on ne sait pas. Et personne ne sait, finalement. Et c'est le secret d'Anita.
Je suis bonorée, parce que c'est tellement incroyable, cette coupure, qu'il s'est forcément passé quelque chose de violent au sein de l'intimité.
On parle un petit peu cinéma, parce que vous avez quand même aussi chacun touché votre manière. Vous avez travaillé avec Mylène de Mongeau sur Adieu Kharkov. J'ai eu l'occasion de la rencontrer. Et je me disais que finalement, c'est aussi une rebelle, une féministe, et elle n'est pas nécessairement la fofolle de Fantomas, et qu'elle aurait très bien pu se retrouver dans vos portraits.
Un sacré phénomène, Mylène. Oui. Une femme affranchie aussi, qui n'avait peur de rien, qui est sortie de toutes les conventions, qui a mené sa vie librement, qui a aussi arrêté sa carrière par amour pour essayer de sauver un homme, qui était une grande amoureuse, une femme pleine d'émotions et de bienveillance, et qui aimait les autres femmes aussi, parce que il y a eu cette rencontre. Moi, j'ai eu pas comme Laurent avec Anita, mais quand même, on avait une génération d'écart. Elle aurait pu être ma maman, mais c'était ma copine. Et c'était une vraie rencontre de femmes et de solidarité. Et elle m'a épaulée, elle a épaulé mes filles. Le dernier film qu'elle a fait, c'est un court-métrage avec ma fille. D'ailleurs, il y a eu un film récemment fait par Dominique Thierry sur Mylène, une maison d'un artiste, sur la dernière maison de Mylène. Et mes filles sont interviewées, puisque ma plus jeune fille a fait son dernier court-métrage avec elle, et où sa sœur jouait aussi avec Mylène dans sa maison, et qui raconte un peu ce qu'est Mylène dans ce court-métrage. Et donc voilà, elle a fait partie de notre famille parce que j'ai reconnu aussi en elle, et je l'ai rencontrée grâce à Joselie Boquet d'ailleurs, grâce au Simenon, enfin tout ça.
J'étais l'ami de Marc Simenon, son mari.
Voilà. Mais elle est rentrée dans notre famille et elle fait partie de notre famille. Elle a été témoin de notre mariage. C'est vraiment quelqu'un qui est très important pour moi et qui était une vraie héroïne de la vie, évidemment.
José-Louis, vous êtes tombé dedans comme Obélix dans la marmite, quand on pense que vous êtes quand même. Vous avez comme parrain un Henri Georges, qui a travaillé avec votre grand-père sur l'enfer. Vous avez quand même côtoyé Olivier Mégaton avec le succès qu'on les connaît. Doug Headline, Lautner, Giovanni, que j'ai adoré, hélas, parti. C'est finalement le cinéma, c'est une passerelle avec le 9e art, ou deux arts distincts.
Je pense que ces deux arts distincts, alors ce sont des arts visuels, mais qui nécessitent, qui n'ont pas du tout le même type de narration. Le réalisateur, et je dis bien le réalisateur, impose son temps de lecture au spectateur. Mmh. La bande dessinée, c'est bien plus libre. Le lecteur dispose de son temps, il lit comme il veut, au moment où il veut, où il veut, donc c'est toute la liberté du livre. Hein. Mmh. Voilà. Le statut de scénariste n'est pas le même non plus.
Vous aviez travaillé sur, tous les deux, sur Alice Guy, donc l'inconnu du 7e art. Je me suis dit qu'on aurait pu trouver un autre sous-titre, l'inconnu de la Gaumont.
Ah, c'est
parce
sûr.
Parce que là aussi, finalement, pourquoi vous aviez. Mais où est-ce qu'on fait en parallèle avec l'ouvrage de le téléfilm, parce que bon, je suppose que c'est des années d'implication pour la BD et le téléfilm peut-être un peu moins de temps d'investissement.
Alors nous, on n'a travaillé sur aucun téléfilm ni quoi que ce soit.
J'ai participé graphiquement.
Ah oui, vous parlez du documentaire sur. Oui.
J'ai participé, mais c'est pas notre film.
Et il a été et on nous avions déjà quasiment, enfin on avait déjà fait tout le travail en fait. Donc en fait, les réalisatrices sont, on leur a confié tout le fruit de nos recherches. Et elles en ont fait leur histoire à laquelle Katel a collaboré visuellement. Mais c'est pas notre film, effectivement.
Katel, José-Louis, un grand merci. Alors, il y a une belle phrase que j'adore. J'ai d'ailleurs même souligné au marqueur. Merci, le plus beau mot de la langue française.
Merci. Voilà.